Chers frères et sœurs, donc en ce dimanche de dédier plus spécialement la parole de Dieu, donc je vais vous entretenir de la parole de Dieu. D'abord que la parole de Dieu est essentielle, ensuite qu'elle est vivante, et puis après quelques pistes pratiques un peu plus concrètes pour entendre cette parole, l'accueillir. Voilà, alors d'abord la parole de Dieu est essentiel. Alors j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça ne fait pas forcément de mal. Et pourquoi elle est essentielle? Alors on pourrait choisir une multiplicité de passages de la parole de Dieu, justement. Déjà la création, on ne serait pas là si la parole nous a, si on n'avait pas été créé par la parole de Dieu. Oui, il y en aurait bien d'autres, mais je vais en retenir trois. Un premier, c'est ce qui tourne autour du don de la loi, le décalogue, les 10 paroles. C'est un moment important quand ils sortent d'Égypte, c'est pas un peuple, etc. Et la parole est importante, il y a tout un dialogue aussi à ce moment-là pour conclure l'alliance avec Dieu. Donc c'est un moment très très important où sont données ces 10 paroles. C'est Dieu qui donne les paroles, c'est pas chacun qui donne son avis. Vous savez que la révélation, c'est la foi, c'est la réponse à la révélation que Dieu fait de lui-même. C'est pas nous qui inventons les choses, qui créons une doctrine, une philosophie, quelque chose comme ça. Non, on écoute et on répond à Dieu qui nous a parlé. Alors il y a ce premier moment qui est vraiment important. Et le psaume, d'ailleurs, qui a été choisi pour cette liturgie, pour cette messe, fait un peu écho à ce don de la loi qui est considéré vraiment comme un don, pas comme quelque chose de pénible et puis un poids à porter, alors à certains moments peut-être, mais je vous relis quelques versets du psaume. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide et il clarifie le regard. Donc ça, c'est les paroles du Seigneur qui clarifient le regard, qui réjouissent le cœur, etc. Donc ces 10 paroles sont vraiment pas un poids, c'est pas vécu comme ça, en tout cas par le peuple de Dieu, parce qu'au contraire, ça leur donne une sagesse aux yeux de toutes les nations, etc. Ça, c'est un premier moment qui nous montre comme cette parole de Dieu est importante. Un autre moment qui finalement part de quelque chose de tout à fait tragique, c'est la déportation à Babylone. Et quand le peuple est déporté à Babylone, il est loin du temple, loin du lieu où on offrait les sacrifices, etc. Et le peuple se retrouvera autour de la parole de Dieu. C'est là que les synagogues, etc., ça, c'est quelque chose qui va se développer autour de la parole de Dieu. Et la parole prendra une importance plus grande encore à ce moment de l'exil. Et la première lecture que nous avions, c'est juste après l'exil, quand ils reviennent à Jérusalem. Alors ils reconstruisent le temple, etc. Et alors c'est Néhémie qui, alors vous pourrez le reprendre, mais on voit cette proclamation de la parole, tout le monde a, on voit qu'ils ont soif de la parole. Alors Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu et les Lévites traduisaient, donnaient le sens et on pouvait comprendre l'importance des l'importance que les scribes ont prise à partir de ce moment-là chez les Juifs, voilà, pour aider à cet accueil de la parole de Dieu. Un troisième passage, pour ne pas être trop long, qui illustre bien combien la parole est essentielle, c'est quand Jésus est ressuscité, il y a un refrain qui revient constamment, conformément aux Écritures. Et Benoît XVI l'expliquait très bien en disant que dans le mystère pascal s'accomplissent les paroles de l'Écriture, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un événement qui porte en lui un logos, une logique. Voilà. Et La résurrection de Jésus s'inscrit dans une logique. C'est pas quelque chose qui vient. Et puis, bien sûr, ça a surpris parce que ça dépasse toujours un peu ce qu'on peut imaginer. Mais en même temps, le point d'insistance, c'est que ça s'inscrit dans cette logique de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu à ceux qu'il aime. Alors voilà, la parole de Dieu est importante aussi pour avoir le sens de ce qui advient dans l'histoire du salut, mais aussi dans notre propre vie. Voilà, donc l'importance de la parole. Deuxième chose que je voudrais développer brièvement, c'est que la parole est vivante. Alors, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que ça veut dire que la parole est vivante? Alors, la religion chrétienne n'est pas la religion du livre. Ce n'est pas des lettres mortes. Notre foi, comme le disait le pape François, se fonde sur la parole vivante et non pas sur un livre. Et la parole de Dieu, c'est pas, d'abord, se place pas à un niveau intellectuel pour nous révéler l'essence, l'existence de Dieu, ce que vous voudrez, mais elle nous parle de cette présence de Dieu. Et la fin de l'évangile de ce jour, c'est « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre ». Ce n'est pas des mots écrits dans un livre quelque part. Il y a quelque chose... Et quand elle est proclamée, en particulier au cœur de la liturgie, la parole est vivante. Elle nous est donnée comme vivante. Bien sûr, elle comporte un contenu intellectuel, mais c'est d'abord un lieu de rencontre avec le Seigneur. Le pape François toujours disait dans une de ses audiences, « Est-ce que tu sais que tu es en train de rencontrer le Seigneur dans ce verset ?» Tu lis pas simplement un verset, tu rencontres le Seigneur dans ce verset. Alors dire que la parole est vivante, c'est aussi dire qu'elle agit en nous. Alors là, tous les apôtres en parlent, là c'est saint Paul. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Elle est vivante, mais ça suppose aussi de l'accueillir avec foi, sinon elle ne peut pas agir en nous. Dire que la parole est vivante, ça veut dire aussi qu'elle nous travaille, elle va nous purifier. Alors vous connaissez tous ce verset de l'Épître aux Hébreux, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Mais Jésus l'avait dit aussi, vous vous rappelez peut-être dans le chapitre 15 de saint Jean, quand il parle des sarments et de la vigne. Vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. La parole de Dieu qui vient rejoindre quelque chose en nous, Dieu vient nous parler très personnellement. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on dit que la parole est une semence. Alors, vous connaissez tous l'évangile du semeur. Et que, voilà, une semence qui ne demande qu'à germer en nous. Après, tout dépend de notre accueil, bien entendu. Et la parole qui est vivante dans le sens où elle nourrit la vie de Dieu en nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc la parole essentielle, la parole qui est vivante. Et alors maintenant, quelques pistes concrètes, j'espère en tout cas, pour que cette parole ne reste pas lettre morte. Parce que le bon Dieu nous parle, mais quelquefois on n'est pas à l'autre bout du fil. Ou il nous envoie une lettre, mais on ne l'ouvre pas. Donc ça suppose, pour l'accueillir vraiment, la comprendre, vous savez bien que dans la parole de Dieu, justement, on ne comprend la parole, on ne commence à la comprendre que quand on accepte de la mettre en pratique avec foi. C'est pas d'abord j'essaie de comprendre et après j'essaierai de croire, mais voilà, je me mets en route et au fur et à mesure, je commence à entrevoir ce que la parole veut me dire. Alors, mais pour ça, il faut déjà lui laisser un espace pour raisonner à la parole. Il faut déjà en avoir le désir. Alors, comme le petit Samuel parle, « Seigneur, ton serviteur écoute », ou « Jérémie, quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Elles étaient mon ravissement, la joie de mon cœur. » Voilà, alors, trois petites pistes que je vous propose. Ça paraît élémentaire, mais bon, il vaut mieux commencer par l'élémentaire. C'est déjà d'avoir une Bible. Bon, pas seulement sur votre étagère, bien rangée, dans son étui parfaitement, mais avoir une Bible qui sert, enfin, que vous pouvez emmener aussi, ou un évangile que vous pouvez emmener avec vous, ou déjà oui, une application sur votre smartphone, ça pèse pas très lourd, hein, l'application. Ça, c'est que, déjà tout simplement d'avoir accès au texte, à l'écriture. Donc d'avoir une Bible ou d'avoir un moyen quelconque pour se nourrir quotidiennement le pain de ce jour de la parole de Dieu. Après, c'est de prendre un peu de temps pour la lire. Quelqu'un un jour parlait de la prudence et il donnait comme exemple pour la prudence. Si vous achetez un livre, réfléchissez avant si vous allez pouvoir le lire ou pas. Parce que si c'est pour décorer votre étagère, ce n'est pas très très utile. Donc, mais voilà, quelquefois, bon, on a de belles intentions, mais on ne réfléchit pas au temps qu'on va donner aux choses. Donc, essayez de voir les créneaux qu'on va donner à la parole de Dieu. Ça peut passer par des choses très simples. Alors, j'accompagne une équipe, et il y a un groupe WhatsApp, hein, c'est la mode. Et chaque matin, chacun lit l'évangile du jour et transmet aux autres, sur le groupe WhatsApp, un verset qui l'a touché. C'est comme le verset qui accompagnera, qui sera comme en arrière-fond, en fond d'écran de notre journée, un verset qui nous accompagne. Ça nous oblige déjà au moins à lire l'évangile. C'est pas grand-chose, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est une petite chose, mais vous saurez en trouver bien d'autres. Et puis après, il y a des moments où je pense qu'il faut prendre plus de temps pour méditer la parole, bien sûr. Mais voilà, donc, déjà avoir une Bible ou avoir aller au texte de la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, après prendre le temps pour ça. Et une troisième chose, c'est l'étudier. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on a plein de possibilités. Alors, dans les diocèses, les paroisses, il y a beaucoup de propositions qui sont faites pour étudier la parole de Dieu. Mais il y a aussi sur Internet, il y a des MOOC, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est très dommage de voir des gens qui ont fait des études bac plus 7 ou 10, ou je ne sais pas, puis qui sont restés au catéchisme du primaire pour ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, c'est un peu dommage, un décalage. Donc bref, de prendre du temps pour l'étudier, pour ce petit à petit. On peut pas. C'est peu à peu qu'on entre dans la parole de Dieu. Voilà. Alors, donc de garder en mémoire peut-être ces trois choses. C'est vraiment important la parole de Dieu. C'est essentiel. On l'a vu dans quelques épisodes très brefs de l'histoire du peuple de Dieu, combien la parole de Dieu est importante, de voir aussi qu'elle est vivante, et puis troisièmement, que pour être vivante, il faut aussi qu'on l'accueille. Et je terminerai peut-être par ces quelques versets du Deutéronome. Il parle de la loi, mais on peut entendre la parole de Dieu. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Il nous a parlé pour nous dans notre langue. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera aux cieux nous la chercher, qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises qui se rendra au-delà des mers nous la chercher, qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique. elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, demandons à Marie de nous aider à accueillir davantage cette parole de Dieu. Amen.